réunion est prévue la semaine prochaine entre Intercontinental et Gigadex sur l'avenir de Ouadraby. La journée de la police nationale, 19 policiers ont été décorés. Un hommage a également été rendu à ceux morts dans l'exercice de leurs fonctions. La qualité de l'air fortement dégradée l'an dernier par les émeutes. Les feux d'entreprise ont provoqué 21 dépassements de seuil de pollution. Une journée pour sensibiliser les jeunes au handicap organisée ce mardi au lycée Anova de Païta. Et puis du sport avec l'avant-dernière journée des mini-jeux du Pacifique, une 28e médaille glanée ce matin par la délégation calédonienne. Bonsoir à tous, soyez les bienvenus dans InfoSoir pour tout savoir de l'actualité en Calédonie et dans la région Pacifique. Et à la une de l'actualité, la Sodil veut ouvrir le Ouadraby à la fin de l'année. La société Gigadex qui doit exploiter l'hôtel a été placée en redressement judiciaire, c'était le 30 juin dernier. Le commissaire aux comptes avait fait un signalement au procureur de la République car le projet accumule les dettes et n'a aucune rentrée financière après avoir essuyé retard sur retard. Ce placement en redressement judiciaire ouvre une période d'observation de 6 mois durant laquelle la Sodil peut terminer les travaux afin d'envisager une ouverture. Toutefois, cette décision de la justice peut avoir des conséquences sur le partenariat avec Intercontinental qui pourrait décider de rompre le contrat lors d'un rendez-vous fixé la semaine prochaine. La Sodil cherche donc des solutions alternatives. Jacques Dralu, son président.
C'est des discussions avec Intercontinental pour voir si on reste partenaire sur cet hôtel. On a préparé un plan B au cas où Intercontinental ne nous suit pas pour ouvrir l'hôtel quand même avec du personnel local. Donc on a déjà identifié le directeur d'exploitation qui lui-même est déjà en train de travailler. Nous pensons qu'il faut ouvrir cet hôtel aussi aux Calédoniens, donc il faut leur donner l'accès, notamment au niveau des prix des nuitées. Donc on y travaille et ça serait surtout... On pense qu'on ne pourra pas tenir un service 5 étoiles, donc on se situera plutôt sur une catégorie 4 étoiles. Si on fait une gestion directe, bien plus abordable pour les gens.
Des femmes de ménage travaillent sur place ainsi que des équipes de nettoyage pour les espaces extérieurs. En revanche, la Sodil dément les rumeurs qui faisaient état d'importantes dégradations sur le site.
L'hôtel n'a pas subi de dégradation, il n'y a pas eu de vol. Donc il a été laissé en état, mais il n'y a pas eu de dégradation. Donc on a repris les choses en main, on a remis des équipes pour nettoyer le site, pour reprendre les chambres, etc. Donc en vue toujours d'une éventuelle ouverture dans les prochains mois.
La date de l'ouverture et le positionnement restent encore en cours d'analyse en raison du contexte économique dégradé et de la faible attractivité touristique de la Nouvelle-Calédonie et de ses îles.
On a des difficultés au niveau des hôtels de la Sodil, mais c'est lié à la situation économique du territoire et notamment du secteur touristique depuis le 13 mai où le nombre de visiteurs extérieurs a tari. Donc la conséquence pour nous, c'est moins de visiteurs sur les îles, donc moins de clients dans les hôtels. Donc on a dû baisser la voilure sur ces hôtels-là. On a compressé le personnel. Et puis dernièrement, donc comme vous avez vu, on les a mis en sauvegarde pour deux d'entre eux et en redressement judiciaire pour deux autres. C'est nous qui l'avons demandé au tribunal pour pouvoir sauvegarder les outils et les emplois restants pour attendre des jours meilleurs.
La Sodil compte aussi travailler à améliorer la desserte des îles afin de faciliter les séjours en loyauté pour améliorer le taux de remplissage de ces structures. Et notez que nous reparlerons de la situation du Ouadraby demain matin. Jacques Dralu, président de la Sodil, sera notre invité du matin à 7h30.
Radio Rythme Bleu, les bonnes fréquences. Allez fou, c'est le 102.5.
L'actualité politique et institutionnelle, les négociations se poursuivent à Bougival entre les délégations calédoniennes. Les discussions sur l'avenir de la Nouvelle-Calédonie sont toujours entourées de la plus grande confidentialité. Elisabeth Noir.
Et cela nous oblige à nous répéter. La consigne de ne pas communiquer est en effet respectée scrupuleusement par les différentes délégations politiques et rien ne sort de ce huis clos dans l'hôtel Hilton de Bougival. Nous avons juste eu confirmation de la poursuite de ces discussions. Elles devaient à l'origine se terminer lundi soir hors de Paris et il était envisagé que le président de la République vienne clôturer ce sommet avant de partir en visite d'État en Grande-Bretagne. Mais dans la nuit, on a appris que finalement les discussions allaient se poursuivre jusqu'à vendredi. c'est plutôt bon signe. On peut penser que les choses avancent puisque les partenaires politiques ont des choses à se dire et continuent à chercher une solution, voire un accord définitif. On rappelle que, d'après nos informations, ces négociations se font désormais sur la base de la recherche d'un accord définitif sans période transitoire et sur la base du résultat des 3 référendums dont le président de la République a acté la validation. Ces négociations, vous le savez, ont débuté jeudi dernier. Elles se déroulent depuis sous différents formats, en plénière, en bilatéral, entre Calédoniens ou avec les représentants de l'État. Hier soir pour nous, d'après nos informations, les discussions se déroulaient entre les partisans de la France et les indépendantistes avec l'éveil océanien, mais sans Calédonie ensemble. Les représentants de l'État ne participaient pas non plus à cette séquence, alors qu'ils sont nombreux à Bougival. Outre le ministre des Outre-mer et plusieurs membres de son cabinet, il y a Patrice Faure, l'ancien haut-commissaire devenu directeur de cabinet du président de la République, mais aussi Éric Thiers et plusieurs membres du cabinet du Premier ministre, et aussi par exemple Rémi Bastille, l'ancien secrétaire général, qui avait été membre de la mission mise en place en mai 2024 par Emmanuel Macron. Tous ces représentants de l'État sont sur place, mais hier, ils n'étaient pas associés aux négociations. Ce sont les partenaires calédoniens, partisans de la France et indépendantistes, qui cette nuit pour nous discutaient directement entre eux. Et selon certaines indiscrétions, ça s'est terminé fort tard. Mais les discussions doivent reprendre ce matin, heure de Paris, et elles devraient donc se prolonger au moins jusqu'à vendredi.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. La réponse à notre question d'hier, 89% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent qu'ils approuvent la discrétion totale qui entoure les négociations entre groupes politiques qui se déroulent actuellement à Bougival. Ils sont 11% à désapprouver cette discrétion. Notre question du jour à présent, êtes-vous déçu qu'il ne puisse pas y avoir de feux d'artifice sur le territoire pour le 14 juillet ? Si vous êtes déçu, vous tapez 1, sinon vous tapez 2 et vous envoyez votre réponse au 3146. Merci pour votre participation et rendez-vous demain pour la réponse à la question du jour. Une journée pour rendre hommage à la police nationale. Une cérémonie se déroulait ce matin à l'école de police de Normandie en présence des autorités civiles et militaires, des familles et des proches. Charlotte Coulson.
Ils étaient nombreux à s'être déplacés à Normandie pour leur rendre hommage. Le contrôleur général Marjorie Ghisoli, directrice territoriale de la police nationale en Nouvelle-Calédonie, souligne l'investissement dont font preuve ces policiers au quotidien.
Ça représente pour nous tous les policiers la fierté de l'être. Cette cohésion bien nécessaire et bien importante dans nos métiers et dans cette belle famille de la police. Et puis c'est aussi un moment où on pense à tous nos collègues qui sont décédés, blessés, et on en a évidemment. Et malheureusement en Nouvelle-Calédonie et à Nouméa, je rappellerai les derniers blessés graves que nous avons eus pendant les émeutes. Mais c'est vraiment un moment où, de rassemblement de toute notre police, de toute la police nationale.
Et durant la cérémonie, le secrétaire général du Haut-Commissariat, Stanislas Alfonsi, a lu un message du ministre de l'Intérieur, Bruno Retailleau, écrit à l'occasion de cette journée nationale. La police est la sentinelle de nos murs porteurs, pouvait-on notamment entendre dans ce discours. Un avis partagé par Stanislas Alfonsi.
La France a l'immense chance et le très grand honneur d'avoir des forces de sécurité intérieure d'une très grande qualité. Elles font preuve d'un professionnalisme qui est remarquable, d'un engagement sans faille, allant jusqu'au sacrifice du plus important, du plus précieux, de leur propre vie. Les policiers sont des gens qui s'investissent corps et âme dans leur mission pour protéger notre société. Nous l'avons vécu ici, en Nouvelle-Calédonie. Nous savons à quel point la Nouvelle-Calédonie est redevable à sa police nationale, à ses forces de sécurité en général. La police est soumise à rude épreuve. Elle tient bon, et elle tient pour nous tous. Elle protège finalement ce que nous avons de plus précieux, cette concorde sociale, cette capacité à constituer une société, pour que justement ce ne soit pas la loi du plus fort, comme le disait le discours qui l'emporte sur le droit.
19 policiers ont été décorés pour leur dévouement, leur courage et leur professionnalisme, mais aussi pour récompenser leurs années de service. C'est le cas du brigadier chef Pierrick Masson. Il est affecté au service territorial de la sécurité publique à Nouméa depuis 35 ans et témoigne de son engagement.
C'est une fierté et un plaisir. 35 ans, j'ai commencé par le service militaire en 1989, service militaire obligatoire dans la police. On a été la première promotion. Et ensuite, j'ai réussi le concours de gardien de la paix au cours de parcours militaire dans la police. Et voilà, maintenant aujourd'hui, 35 ans, une petite pensée pour mon père qui était dans la police avant moi. Il a passé 25 ans dans la police. Et aujourd'hui, j'ai une pensée pour lui.
Un dépôt de gerbes a également été effectué pour rendre hommage aux policiers morts dans l'exercice de leurs fonctions.
Les émeutes ont fortement dégradé la qualité de l'air. Scalaire a dressé le bilan de l'année 2024. Les feux d'entreprise ont provoqué des pollutions importantes dans les secteurs de Montravel, Logicop, Vallée du Tir ou encore Indu, où Scalaire exploite des stations. Manina Tei, directrice de Scalaire.
21 dépassements sur Nouméa essentiellement, tous observés entre le 14 mai et le 26 mai, avec encore des petits dépassements au début juin. Donc c'est vraiment ce qu'on doit retenir, un bilan de la qualité de l'air particulier parce que les seuls dépassements observés ont été faits pendant ces exactions. Ces 21 dépassements sont essentiellement et uniquement des particules fines, PM10 et PM2,5, à peu près sur la même quantité. Donc ça veut dire que ces particules en fait sont composées de traceurs d'incendie avec des métaux et d'autres substances et d'autres éléments qu'on n'observe pas d'habitude lorsque l'on fait notre surveillance à l'année. Par exemple, des particules d'arsenic, du plomb aussi en quantité non observée d'habitude, et puis des dioxines et furanes aussi qui potentiellement peuvent être aussi relarguées lors d'incendies.
Après cet épisode inédit, Scalaire aimerait poursuivre ses études, mais l'association manque de financement et a donc dû réduire la voilure. Nina Juillet, la présidente de Scalaire.
Les exactions ont eu un impact considérable sur l'environnement et donc sur la santé des Calédoniens. Nous avons, avec la DAS, commencé à partir de nos mesures à dégager quels étaient les différents polluants émis pendant cette période. Il conviendrait maintenant de faire un partenariat avec l'université, par exemple, pour analyser ces polluants et les conséquences qu'ils peuvent avoir sur la santé des Calédoniens. Et aujourd'hui, effectivement, par manque de financement, nous ne pouvons pas poursuivre cette étude. Très concrètement, la participation du gouvernement annuellement, c'est 16 millions, soit à peu près 20% de notre budget. Et cette année et l'année dernière, nous n'avons obtenu aucun financement, ce qui nous a contraints à supprimer certaines missions de Scalaire, notamment la station de Lanzvata, puisqu'aujourd'hui, elle ne fonctionne plus par faute de financement.
Scalaire veut trouver d'autres moyens de financement pour moins dépendre des collectivités. Auparavant, le financement public représentait 70% de son budget, le reste étant à la charge des acteurs économiques sur le principe du pollueur-payeur. La seconde édition du Forum calédonien du changement climatique arrive. Elle se déroulera le 22 juillet à l'Université de la Nouvelle-Calédonie. Initiative du gouvernement, le Forum regroupera différents acteurs institutionnels, académiques et de la société civile, Charlotte.
En 2024, le rendez-vous avait déjà rassemblé près de 400 personnes au cinéma de Dimbéa. Cette année, il se déroulera à l'UNC. Le but est le même, étoffer la stratégie de la Nouvelle-Calédonie en matière de changement climatique, adoptée le 29 avril dernier à l'unanimité par les membres du Congrès. D'où la nécessité, selon Jérémy Katidjo-Monnier, membre du gouvernement en charge notamment de l'environnement, de réunir un panel d'acteurs divers et variés qui partageront leurs connaissances lors du forum.
Aujourd'hui, on se rend compte qu'on a besoin de discuter à toutes les échelles, notamment à l'échelle la plus fine sur le terrain, entre les différents acteurs. Donc on a des associations qui seront là, qui sont aux avant-gardes des conséquences du changement climatique, comme aussi les agriculteurs qui seront présents, mais comme aussi la recherche qui s'intéresse aussi bien avec Météo France que l'IRD, que l'Université de Nouvelle-Calédonie, que l'ensemble des acteurs de la recherche en Nouvelle-Calédonie, mais aussi les entreprises au sens le plus large. Beaucoup d'entreprises et de petites entreprises calédoniennes s'intéressent à des solutions plus durables. Donc c'est l'occasion pour l'ensemble des acteurs de partager pour que chacun à son échelle, dans les compétences qui sont les siennes, puisse participer à une société calédonienne plus résiliente.
Et cette année, l'accent sera placé sur la donnée scientifique, d'où l'implication de l'UNC dans le Forum calédonien, comme l'explique sa directrice Catherine Ries.
C'est un espace d'échange et de diffusion des résultats de la recherche, des solutions qui sont trouvées, qui ont été développées notamment par des start-up, des entreprises qui sont issues de la recherche et de l'innovation, et de pouvoir échanger avec le grand public sur ces données. Et dans le domaine de la recherche, on a notamment le programme de recherche du CRISICA, donc qui est le consortium qui regroupe les organismes de recherche autour de l'université, qui déploie sa programmation cette année autour de projets en lien avec le changement climatique. Et on parle des personnes qui sont sceptiques aux données, mais là, ça permet ce débat, ça permet de pouvoir apporter des éléments objectifs, des éléments factuels qui permettent d'apporter de l'information en fait sur ce que dit la science aujourd'hui sur ces questions.
Et le forum se déroulera, je le rappelle, le 22 juillet à l'UNC. Il est ouvert au public. La participation aux tables rondes et aux séminaires se fait sur inscription sur le site du gouvernement.
18h sur Radio Rythme Bleu. On marque une première pause dans ce journal et on verra le reste de l'actualité calédonienne dans quelques instants.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Dans vos stations Shell et Pacific, gagnez 4 Toyota Hilux, 730 cartes carburant à 15 000 francs et profitez tous les jours de nos offres fidélité et des bons plans en magasin. Rendez-vous vite dans vos stations Shell et Pacific. Et n'oubliez pas votre carte fidélité.
Jeu sans obligation d'achat jusqu'au 21 mars 2025. Règlement disponible dans vos stations Shell et Pacific.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
Mon Club, l'appli fidélité numéro 1 en Nouvelle-Calédonie. Dans vos hypermarchés géants et supermarchés casino, cagnottez 10% sur plus de 1000 produits toute l'année. Oui, oui, Mon Club, c'est plus de 1000 produits remisés toute l'année dans vos hypermarchés géants et supermarchés casino. L'application Mon Club, engagée toute l'année pour votre pouvoir d'achat. Pensez à la présenter en caisse.
Remise créditée sur la cagnotte réservée aux membres Mon Club. Non cumulable avec d'autres promotions en cours, non échangeables et non remboursables. Hors alcool et produits réglementés. Application gratuite la première année, puis cotisation annuelle de 1000 francs prélevée sur la cagnotte sans lien avec votre compte.
Info soir, Léo Fichou.
C'est la saison des baleines en Nouvelle-Calédonie. Elles passent près du territoire dans leur migration des eaux froides de l'Antarctique vers les eaux plus chaudes. Une espèce protégée qu'il convient d'observer en respectant quelques règles. Ce dont nous avons parlé ce midi dans le magazine Citoyen, Jean-François Baudin.
Des règles pour ce qu'on appelle le whale watching, en français observation des baleines, pour les skippers professionnels qui emmènent leurs clients sur les zones d'observation. Des règles qui ont été mises en place au bout de plusieurs années, en collaboration avec les observations des scientifiques, a expliqué Claire Garrigue, chercheuse et spécialiste des cétacés.
Il y a 30 ans, quand le whale watching a commencé, il n'y avait pas de règles. Et c'était un petit peu, je dirais, la foire d'empoigne. Et maintenant, c'est vraiment quelque chose de très bien organisé. Pendant une période, on a fait des études, on a essayé de comprendre quel était l'effet des bateaux sur les baleines. Et à partir du Cap Endoie, on a pu suivre les déplacements des baleines et ceux des bateaux, demander d'ailleurs en coopération avec les charters de nous laisser voir ce que faisait une baleine. Après, on la suivait encore pendant que le bateau l'approchait, et on la suivait après. Et on a pu montrer qu'en fait, les bateaux ont un effet sur les baleines. Et plus il y a de bateaux, eh bien, plus l'effet est important, l'effet étant un évitement. Elles voient ça comme un prédateur, elles vont passer plus de temps sous l'eau, elles vont avoir des directions plus aléatoires. Donc, on a travaillé à la mise en place d'un certain nombre de règles qui diminuent l'effet. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a plus d'effet, on a tous un effet sur les baleines, mais on essaye de le diminuer au maximum.
La période d'observation pour les professionnels des charters s'étale de la mi-juillet à la mi-septembre. Chaque année, la province sud les réunit pour une ou deux journées de formation. Patrice Plichon est responsable des gardes nature du Grand Sud, chargé du respect des règles d'observation et formateur du programme Observer sans danger.
On fait toujours un rappel de la réglementation, parce qu'il y a toujours des opérateurs un peu nouveaux, des nouveaux skippers, donc on rappelle les règles d'observation des baleines. Les règles principales, donc on s'approche jamais à moins de 100 mètres de baleine. On l'observe une heure maximum à quatre bateaux, les quatre bateaux du même côté. Et la durée cumulée d'observation pour un groupe de baleines, c'est 3 heures par jour. Après, lors de ces formations aussi, on se répartit un peu la charge sur le plan d'eau, comment on va travailler ensemble, par exemple des points techniques sur quel canal VHF on communique, donc c'est le canal 72, et puis après comment on s'organise pour la vigie, enfin voilà, il y a toute un peu la coordination entre différents opérateurs, entre les scientifiques, les opérateurs professionnels et les gardes nature.
Ces règles pour les professionnels sont aussi valables pour les plaisanciers qui veulent profiter du spectacle. Les bons gestes et les bonnes pratiques sont à retrouver sur le site de la province sud. S'il y a des abus, les gardes nature qui sont particulièrement sensibilisés peuvent intervenir et les amendes peuvent aller jusqu'à 90 000 francs. Et si des règles ont été mises en place, ont souligné tous les participants à ce magazine citoyen, c'est bien sûr pour protéger les baleines mais aussi permettre au plus grand nombre de profiter d'un spectacle aussi rare qu'exceptionnel qui nécessite le respect de tous.
Radio Rythme Bleu, les bonne fréquence. À Païta, c'est le 100.4.
Des mini-jeux paralympiques organisés à l'Arène du Sud. Aujourd'hui, les étudiants de BTS Services et Prestations au secteur sanitaire et social se mobilisent pour sensibiliser la jeunesse. Ils ont organisé une journée de cohésion entre lycéens et personnes en situation de handicap. Charlotte Coulson.
Et des jeunes valides qui se retrouvent à la place des personnes en situation de handicap le temps d'une compétition amicale. C'est le but de cet événement qui vise à sensibiliser les lycéens. Pour cela, les étudiants de BTS ont invité des membres de l'Association calédonienne de handicap. Ensemble, ils ont pu participer à des activités physiques ou sensorielles, une expérience enrichissante pour les classes de seconde du lycée à Nova.
C'est genre on a fait de la boxe mais sur fauteuil roulant pour se mettre un peu à la place de ceux qui faisaient. L'impression c'est compliqué
parce qu'on avait une main derrière. Et en fait, quand on fait ça, on se rend compte vraiment de ceux qui sont vraiment en situation de handicap et qui pratiquent ce sport. Et c'est pas facile aussi pour eux.
Là, on est en train de faire un atelier où on se met à la place des personnes en situation de handicap. On fait une course, en fait, entre deux équipes, on est en fauteuil roulant. C'est difficile parce que nous, on n'est pas habitués à manier le fauteuil roulant.
Allez, à vos mains, prêts, partez.
Vous avez gagné ou perdu ?
Non, j'ai perdu. Franchement, c'était difficile. En fait, quand on regarde les fauteuils comme ça, on croit que c'est facile, mais en fait, c'est compliqué à manier. Ben, ça nous aide à se mettre à leur place, à les comprendre un peu.
Et parmi les participants aux Olympiades, Wenceslas et Livio ont tout donné sur les épreuves de sport. Originaires de Païta, ils étaient satisfaits de l'organisation de cette journée qui permet de briser les préjugés sur le handicap.
Ah, c'est bien aussi, c'est pour sensibiliser les élèves aussi. Et c'est pour montrer aussi que malgré notre handicap, ben, nous on peut faire des activités sportives ou autres.
Ben, c'est bien parce qu'ils vont savoir que nous, en tant qu'handicapés, on est comme tout le monde. On veut essayer de faire un peu comme tout le monde, quoi. Bouger comme tout le monde, voilà, on est juste handicapés, c'est tout. Ben, ça motive un peu, mais en même temps, ça me permet de sortir de chez moi, quoi.
Est-ce que vous pratiquez un sport en particulier ?
Oui,
vous faites quoi ?
Le ronflage.
L'humour, c'est ça, le sport ?
Voilà.
Une journée qui s'est donc déroulée dans la bonne humeur et les étudiants ont aussi reçu la visite de l'adjoint au maire de Païta en charge de la jeunesse et des sports et des loisirs, Jean Cromopawiro.
Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie déploie une politique de prévention de la santé en milieu scolaire. Cette nouveauté se caractérise par la mise en place d'une visite médicale pour les élèves de 6e. Au collège de Caméré, 90 élèves en ont passé ce matin des tests visuels et orthophoniques avec l'infirmière et le médecin scolaire. Ils ont également contrôlé la santé bucco-dentaire des élèves et peuvent repérer et prévenir des problèmes d'obésité ou de stress. Hélène Pichot est chargée de la mission santé scolaire au gouvernement. Elle nous a expliqué les raisons de la mise en place de ce dispositif ainsi que les prochaines ambitions du gouvernement.
Le gouvernement met en place un dispositif de santé scolaire sur l'ensemble du territoire et pour la scolarité de la maternelle jusqu'au secondaire. Pour ça, on travaille avec les provinces, les équipes médicales des provinces. Et donc des visites médicales et infirmières sont mises en place en grande section, en CE1. Et la nouveauté depuis cette année, c'est la 6e. Parce que la santé des enfants, c'est important, parce que c'était une promesse des élus de dédier une partie de la taxe sucre à des actions concrètes de prévention. Donc en voici la première application. Et parce qu'on sait très bien qu'à partir du collège, il y a des nouveaux enjeux en santé, notamment la santé mentale qui se joue, et il était important de suivre ces problématiques. L'enfant, à terme, va avoir un suivi sanitaire pendant tout son cursus scolaire. On aimerait pouvoir clôturer ce parcours-là par un entretien infirmier au lycée avec l'élève.
Les visites préventives médicales se terminent cette semaine pour les établissements de la province des Îles. En ce qui concerne le sud et le nord, les visites se poursuivent jusqu'à la fin de l'année. L'actualité dans la région avec les suites de la visite officielle effectuée la semaine dernière par le Premier ministre fidjien Sitiveni Rambuka. En Australie, elle va avoir des conséquences immédiates, notamment en matière de sécurité. C'est la correspondance de Jean-Pierre Zajac.
Dans le cadre du partenariat qui les unit, l'Australie va injecter une somme équivalente à 800 millions de nos francs dans le renforcement du contrôle des conteneurs dans les ports de l'Autoka et de la capitale Suva. Deux agents de la police fédérale australienne seront intégrés au sein de la police fidjienne et Canberra a également convenu de déployer deux conseillers techniques dont le rôle va consister à diriger la mise en œuvre de la nouvelle stratégie de sécurité de l'archipel. Dans le cadre du même programme, le gouvernement australien va augmenter son aide bilatérale au développement des îles Fidji, aide dont le montant va s'élever à une somme équivalente à 2 650 millions de nos francs en 4 ans et qui va emporter le total à 33 milliards de francs entre 2025 et 2029. À Sydney, Jean-Pierre Zajac, RRB.
18h passées de 9 minutes, on marque une seconde pause dans ce journal avant de voir toute l'actualité sportive et notamment les mini-jeux du Pacifique à Palau.
Toute l'info en trois lettres, RRB.
Rhume, nez bouché, nez qui coule, stop.
Le spray nasal décongestionnant pur essentiel dégage le nez de toute la famille immédiatement. C'est la solution naturelle à l'efficacité cliniquement prouvée. Dispositif médical dès 3 ans en pharmacie. Pur essentiel, l'efficacité à l'état pur. Nouveau, pour soulager tout grasse et tout sèche, découvrez les comprimés tout pur essentiel.
RRB, nos efforts valent bien un geste fort. Soutenez-nous, faites un don. Par chèque, virement ou en espèces aux 4 rues de Sébastopol. Toutes les infos sur rrb.nc ou sur la page Facebook. RRB, les fréquences aux couleurs de la France.
RRB, pour être au cœur de l'actualité.
Il est 18h10, la fin de votre journal avec Léo Vichoux.
L'actualité sportive avec à la une les mini-jeux du Pacifique, direction Palau.
Suivez les mini-jeux du Pacifique avec Toyota Location. Les mini-jeux du Pacifique, c'est aussi avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Après de nombreuses médailles récoltées par les nageurs calédoniens, notamment en début de compétition, c'est désormais aux athlètes et aux triathlètes de briller. Ils ont remporté une nouvelle médaille ce mardi, Jean-François Baudin.
Après avoir décroché 2 médailles d'argent et une médaille de bronze hier en individuel, c'est sur le relais mixte cette fois-ci que les triathlètes se sont illustrés et ils sont montés sur le podium. Très tôt ce matin, Mélanie Ali, Clémence Besson-Léo, Timothée Hérout et Mathieu Zalamacha ont terminé deuxième derrière des Tahitiens quasiment intouchables. Une épreuve difficile, surtout un lendemain de triathlon individuel. Mais l'esprit d'équipe a permis aux Calédoniens de se surpasser pour remporter la médaille d'argent, nous a dit Clémence Mélanie juste après la course.
Ouais, c'était bien, c'était dur. J'ai senti les courbatures du triathlon S d'hier. Donc c'était assez dur, mais c'est cool de faire une équipe, ça motive.
On a essayé de tout donner, tous les quatre, je pense vraiment, de faire notre maximum avec nos points forts, nos points faibles, mais on a vraiment fait le maximum. Et c'est une belle, belle course. On est une chouette équipe. Il y a un bel esprit de cohésion. Donc, il y a quand même une belle deuxième place. Donc, c'est top.
Voilà, une médaille d'argent par équipe. Un résultat qui satisfait évidemment, une fois de plus, Eric Savignac, le coach de l'équipe calédonienne de triathlon.
Encore une fois satisfait, puisque c'était la médaille, la place visée. Au vu des résultats d'hier, maintenant, on ne finit pas à des années-lumière. Donc, on n'est pas très loin, d'autant plus qu'on joue le jeu et la carte des 50% de jeunes et non expérimentés, pour qui c'était une première. Et même Mélanie, qui est ancienne, c'était sa première fois. Donc voilà, on avait finalement 25% de l'équipe qui était expérimentée. Donc, on est à notre place. On la mérite amplement. Félicitations aux Tahitiens. Non, franchement, les enchaînements impeccables, le job a été fait. Ils ont donné leur maximum. Et puis, on verra demain la suite.
La suite demain. On espère que les Calédoniens vont vite récupérer car ils seront sollicités pour l'aquathlon par équipe, mais aussi en individuel, avec encore une fois de belles chances de médailles pour les triathlètes calédoniens.
Demain, il y aura également de l'athlétisme avec le semi-marathon. On retrouvera Natalia Prado, la Calédonienne qui, je le rappelle, a déjà remporté 2 médailles d'argent sur le 5000 et sur le 10 000 mètres. Mais avant ça, on retrouve d'autres cagous ce soir sur la piste d'athlétisme de Corore.
À 18h30, dans un peu plus d'un quart d'heure, Nicolas Cazareru participera aux demi-finales du 200 mètres. Lors des séries, il avait réalisé le 5e meilleur chrono en 21 secondes 96. S'il parvient à faire l'un des 6 meilleurs temps, il obtiendra son billet pour la grande finale du 200 mètres qui est prévue, elle, à 20h20, heure de Nouméa. Côté handisport, Tom Lullet participera, lui, à la finale du saut en longueur. Rendez-vous à partir de 20h, heure de Nouméa. Pour le moment, on rappelle au classement des médailles que la Calédonie est 7e avec 28 médailles, 5 en or, 8 en argent, 15 en bronze. Le classement est toujours largement dominé par Tahiti. Les Samoa et les Fidji complètent le podium.
Et demain, ce sera la dernière journée de ces mini-jeux du Pacifique. La cérémonie de clôture aura lieu à 20h, heure de Nouméa. Vous pourrez la suivre en direct sur la page YouTube des mini-jeux.
Page spéciale mini-jeux du Pacifique, résultats, réactions. Suivez chaque jour les cagous sur RRB avec le CTOS et ses partenaires, la BNC et Total Energy.
Les mini-jeux du Pacifique vous ont été proposés par Toyota Location. Louez votre Toyota Raze automatique à partir de 3900 francs par jour. Seulement 3900 francs par jour. Toyota Location à Nouméa, Koné et Lifou. Un seul numéro, 24 28 28.
Les sports encore, direction la Croatie qui accueille dès ce soir et jusqu'à la fin de la semaine les championnats d'Europe de windfoil. Parmi les nombreux participants, on retrouve deux Calédoniens, Lila Ricard, 17 ans seulement, et Maxime Meyer, 18 ans. Ils seront engagés dans la catégorie des moins de 21 ans sur le format slalom. En bref, toujours un mot de volley pour signaler que Sabine Aiwegene vient d'être une nouvelle fois appelée en équipe de France. La Calédonienne va disputer avec les Bleus la troisième semaine de la Ligue des Nations au Japon, face notamment aux pays hôtes, mais aussi au Brésil, à la Bulgarie et à la Corée du Sud. Et puis un mot de football pour terminer. Football en métropole, l'intersaison est synonyme de transfert. Parmi les nombreux mouvements de joueurs, on signalera celui de Jean-Jacques Katrawa. À 25 ans, l'attaquant international calédonien continue son aventure en Corse, mais il quitte son club de Sud FC pour rejoindre notre club de National 3, 5e niveau national. Il s'est engagé avec le Gallia Club Luciana. 18h15 après le sport, place à la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et la météo, c'est avec vous, Pierre.
En effet, le ciel s'annonce étoilé sur la façade ouest, malgré quelques passages nuageux en fin de nuit. Ailleurs, les nuages resteront bien présents, accompagnés de quelques ondées localisées, notamment sur l'est du territoire. Le vent d'est se maintiendra autour de 10 nœuds en général, avec des pointes de 10 à 15 nœuds attendues aux extrémités nord et sud. L'ouest, quant à lui, restera en grande partie abrité du vent. Les températures minimales oscilleront entre 18 et 22 degrés sur le littoral et ils descendront entre 14 et 17 degrés à l'intérieur des terres. Tendance pour demain matin, le soleil devrait largement dominer sur l'ouest. Ailleurs, les nuages persisteront et continueront de remonter dans le flux d'Alizé, apportant ici et là quelques petites averses. L'Alizé, orientée est-nord-est, soufflera en moyenne autour de 10 nœuds. Sur l'ouest, le vent restera faible et orienté au sud-est, ne dépasseront pas les 5 nœuds.